Bonjour et bienvenue sur le podcast Olépat. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Jean-Philippe, que j'ai déjà invité pour le podcast sur la colombophilie. Mais aujourd'hui, il va nous parler d'une de ses autres passions. Et du coup, ça sera un peu un épisode bonus parce que c'est pas forcément sur les animaux de compagnie, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Aujourd'hui, on va parler de safari photo. Du coup, il va pas se représenter comme vous le connaissez déjà un peu. Mais d'abord, bonjour Jean-Philippe, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un safari photo ?
Bonjour, merci de me réinviter. Alors oui, aujourd'hui on est sur un sujet totalement différent. Alors un safari photo, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la pratique de la photographie qui nous permet de découvrir des animaux dans leur milieu naturel. Alors quand on passe safari, on pense bien sûr souvent à l'Afrique. Hein. D'ailleurs, on va parler beaucoup d'Afrique aujourd'hui. Mais en fait, on peut faire des safaris à peu près partout. On peut faire des safaris en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique du Sud. Voilà.
Ok. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé et où est-ce que tu as principalement fait des safaris ?
Alors moi, j'ai commencé en fait... j'avais 24 ans parce que à cette époque-là, je travaillais, j'habitais en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est très réputé pour des safaris. Notamment, il y a un parc très très grand qui s'appelle le Kruger Park. Donc j'adorais ça. J'y suis allé plusieurs fois. Alors dans ce parc, et puis dans plein d'autres pays limitrophes comme le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe notamment. Et donc voilà, c'est là où j'ai découvert les safaris photos et j'ai adoré ça et j'ai continué depuis en visitant d'autres pays évidemment le Kenya et puis le Serengeti, enfin la Tanzanie avec notamment le Serengeti.
D'accord. Et comment ça se déroule un safari photo ? Est-ce que tu peux nous dire, enfin, déjà, comment on s'organise avec peut-être des agences, enfin bref, voilà, tout ça.
Alors, en fait, il y a différents systèmes. Donc, il y a des voyages, comme tu le dis, qui sont déjà très organisés avec des agences, mais ces agences te procurent aussi un guide sur place. Et c'est le guide qui va te conduire, par exemple, dans une réserve d'animaux. Et puis, il y a des voyages qui sont beaucoup plus sur mesure. Et là, c'est toi qui l'organises quand tu vas voir l'agence de voyage. Et là, par exemple, ça peut se faire tout à fait facilement. En Afrique du Sud, c'est assez facile. On peut louer une voiture. Il faut avoir évidemment un permis, mais on peut louer une voiture. Et puis là, on va soi-même dans la réserve, on conduit et on suit les règles internes. Donc vraiment, il y a des systèmes très très différents qui existent. Et puis il y a des pays sur lesquels peut-être c'est plus facile de commencer tout seul.
Par exemple,
l'Afrique du Sud typiquement, ou les pays d'Afrique australe, la Namibie relativement aussi. Le Kenya c'est relativement facile, mais là on tombe vraiment souvent sur des voyages très très organisés où on est pris en charge.
C'est peut-être mieux de commencer avec un guide et ensuite peu à peu peut-être pas se lancer directement tout seul.
Oui, mais je sais pas s'il y a un bon système finalement. On peut, si on le fait encore une fois comme moi je l'ai fait, hein, quand je l'ai fait en Afrique du Sud, je le faisais tout seul. On peut le faire facilement. Il faut juste se dire qu'on va conduire là-bas. Alors par exemple dans ces pays-là, souvent on conduit à gauche, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça, mais ça c'est facile.
Ok. Et du coup, tu parles surtout de photos, parce que dans ces safaris-là, tu observes les animaux, mais tu fais aussi de la photo. Est-ce que tu as des conseils pour aussi respecter les animaux qui y sont ? Enfin, voilà.
Ouais. Alors, le jeu d'un safari, c'est de trouver des animaux, déjà. Alors, quand je dis trouver, il faut vraiment imaginer qu'on a des réserves qui peuvent être très, très grandes. Tout à l'heure, j'ai parlé du Kruger Park. Le Kruger Park, c'est 20 000 km². Donc, en gros, c'est un peu un rectangle de 200 km sur 100 km. C'est plus de la moitié de la Belgique. Donc, ouais, tu vois, c'est ouais, très, très grand. Le Serengeti, en Tanzanie, c'est 15 000 km². Là, c'est la moitié de la Belgique. Puis après, on a des réserves, évidemment, qui sont plus petites. Mais déjà, voilà, on a des grands territoires. Et il n'y a pas des millions d'animaux, malgré tout. Au Kruger, sur les 20 000 km², si tu regardes le nombre de lions, on a à peu près 4 millions. On a à peu près entre 12 et 15 000 éléphants. Ouais. Donc il faut vraiment trouver les animaux,
bons spots,
alors ouais. Les bons spots et tout ça. Donc il y a plusieurs règles de bon sens, je dirais. La première, c'est qu'il faut partir relativement tôt le matin, parce que très vite, notamment en Afrique, il fait chaud. Et évidemment, quand il fait chaud, les animaux sont moins actifs. Alors très tôt le matin, ça dépend des saisons évidemment, mais Ça peut être de temps en temps à partir de 5 heures du matin, juste quand le jour se lève où les animaux commencent véritablement à bouger, d'autant plus qu'il y a des animaux qui de toute façon bougent même la nuit, hein. Voilà, ça c'est une première règle. La seconde règle, c'est qu'il faut être très patient. On peut très bien, quand on roule comme ça, on peut très bien rouler 2 heures sans voir aucun animal. Et puis tout d'un coup, on va voir pendant 10 minutes, un quart d'heure, on va voir des choses qu'on n'imaginait même pas. Il faut avoir du bon matériel, je trouve. Moi, je vous conseille vraiment de prendre déjà une paire de jumelles, parce que les animaux sont pas tout... de temps en temps, les animaux sont juste à côté de la route.
Oui, parce que c'est pas non plus des robots qui attendent qu'on les photographie.
Non, enfin, pas du tout. Donc voilà, il faut avoir des jumelles pour observer un peu ce qui se passe. Il faut avoir aussi du bon matériel photo, souvent, parce que quand on prend des photos, on peut être parfois déçu quand on revient chez soi et puis qu'on regarde les photos, voilà. Mais donc des jumelles, une bonne paire de jumelles, du bon appareil photo si on peut.
Je me permets de te couper. Juste, par exemple, quel appareil photo toi tu conseillerais, peut-être pas trop cher non plus, mais pour commencer, qui est de bonne qualité. Est-ce que t'as un nom en tête ?
Alors moi je vous renvoie pas vers des marques particulières, mais il faut avoir au moins un appareil avec des zooms ou des téléobjectifs qui puissent vraiment un peu rapprocher les distances. Ça c'est important. Après, tu sais, tu peux voir maintenant, tu as vraiment des très très bons appareils, mais bon, il faut aller dans les magasins spécialisés, mais ce qui est important, le plus important, c'est le zoom, le téléobjectif.
Okay.
Et puis il faut savoir s'arrêter dans une réserve, il faut savoir écouter. Par exemple, tu peux très bien voir un troupeau d'antilopes d'Impala, par exemple, et puis tu t'arrêtes, et puis tout d'un coup, au bout de 10 minutes, on voit que les Impalas deviennent un peu nerveux, ils commencent même à pousser des petits cris d'alerte. Ça veut peut-être dire qu'il y a un autre animal qui s'est approché d'eux et que toi, tu ne l'as pas vu, mais eux l'ont senti. Donc voilà, ça c'est vraiment les règles de bon sens. Puis après, il y a les règles du parc, hein. C'est-à-dire que d'abord, on fait pas n'importe quoi dans un parc. Donc, on peut pas descendre de son véhicule, on peut pas aller se promener.
Oui.
On peut pas aller se promener dans le parc à pied, ça c'est impossible.
À part, il y a peut-être aussi, je voulais en parler, d'autres types de safaris comme les safaris à pied, mais pour là, c'est avec un guide.
Alors oui, alors moi je parle vraiment des safaris voitures. Je pourrais te reparler un peu des safaris. J'ai quelques anecdotes sur des safaris à pied, mais là c'est très très particulier. Mais dans les safaris voitures, en fait, tu peux pas descendre n'importe où. Alors il y a des endroits de pique-nique qui sont souvent un petit peu un peu isolés, où on a un peu de visibilité, où on peut aller. Mais moi, par exemple, j'ai pris des photos de lions ou d'éléphants qui étaient en plein milieu d'un parc de pique-nique. Donc tu vois, les animaux passent, hein. Il y a pas de barrière souvent. Donc vraiment, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut pas. Un truc très important aussi quand on est en voiture, c'est de conduire lentement. Faut conduire à la bonne vitesse, c'est plutôt 20-25 km/h, donc faut pas conduire trop vite si on veut voir des animaux. Et puis ensuite, ben voilà, il faut respecter les animaux, tout simplement. Ouais. C'est respecter les animaux, pas faire de bruit, pas faire n'importe quoi, pas les brusquer.
Oui. Et du coup, j'avais aussi quelques conseils à te demander niveau hébergement. Du coup, est-ce que tu fais ça dans des bungalows ? Comment est-ce que... Voilà, parce que c'est quand même assez important
de savoir
où on dort.
Alors là effectivement, il y a plein de systèmes qui existent, hein, depuis le plus rudimentaire, c'est-à-dire le camping avec une tente, et puis jusqu'au bungalow, et quelquefois dans des pays, c'est des bungalows qui sont très très luxueux. Là encore, ça dépend du budget, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a tous les systèmes qui existent quasiment dans tous les parcs. Plus on est loin et plus je dirais que le confort, il faut pas attendre un confort démesuré, mais aujourd'hui dans tous ces parcs-là, on a quand même malgré tout énormément de confort, hein. On peut prendre des douches, il y a de l'électricité, alors quelquefois pendant 24 heures sur 24, quelquefois uniquement le soir parce qu'il y a des générateurs. Mais voilà, donc il y a un confort partout maintenant, c'est sûr. Mais ensuite, c'est un peu le choix de chacun. Ce qui est important, moi je trouve aussi, c'est de rester plusieurs jours dans un parc. Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, les parcs sont grands, on voit pas toujours des animaux. Peut-être que le premier jour, on va pas être très chanceux, parce qu'il y a la chance qui intervient. Peut-être que le second jour, on sera plus chanceux.
D'accord. Du coup, juste, j'avais deux questions. Déjà, pour les tentes, est-ce que c'est pas trop risqué parce que c'est quand même en pleine nature? Est-ce qu'avec les animaux, ça peut être un risque?
Alors, non, alors il y a peu de risques. Il y a peu de risques. Alors, il y a toujours des risques qui peuvent arriver, mais ce qui est complètement normalement interdit et déconseillé, c'est de sortir de sa tente la nuit.
Ouais.
Parce que la nuit, toi, tu vois pas,
Mais
mais
les
si
autres
tu
animaux,
sais,
ils
mais
voient.
les animaux te voient et les félins te voient très très bien. Donc ça déjà, donc ça c'est important de le dire, il faut pas sortir. Ensuite, un animal va pas défoncer une tente pour te faire des misères. Moi j'ai vu au Botswana des traces d'éléphants entre les tentes,
Ah
c'est-à-dire
ouais.
que les éléphants étaient passés entre les tentes dans la nuit. Ça
Mais il n'y a pas le
arrive.
risque d'écrasement
Mais
que...
voilà, et en fait,
Ok.
on m'a même raconté des anecdotes où des gens avaient couché dehors dans des sacs de couchage et ils ont vu les éléphants les enjamber, je dirais.
Ah
Mais en
ouais.
fait, les pattes, les coussinets des éléphants sont très très sensibles, donc ils leur ont pas fait de mal du tout. Alors, ce qu'il faudrait
Bah,
mieux
faut
pas,
pas.
c'est crier en pleine nuit, ça pourrait peut-être les effrayer.
Oui.
Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, il faut pas, il faudrait, voilà, il n'y a pas de risque. À l'inverse, ce qu'il faudrait pas faire si tu dors dans une tente, c'est laisser la porte de ta tente ouverte, parce que là, on peut imaginer. Moi, un jour, j'ai dormi dans des douches abandonnées, qui étaient un peu abandonnées au Botswana, et il y a des hyènes qui sont arrivées la nuit et qui
Okay.
commençaient à chercher, parce qu'en fait, à chercher à manger, à chercher dans les poubelles et tout ça, et je les entendais de l'autre côté du mur. Donc voilà, il y a des moments. Faut faire attention, mais encore une fois, les animaux vont pas ouvrir une porte, ils vont pas démonter une tente pour
Oui, mais c'est
t'attraper.
souvent sans tissu, du coup, il faut que le tissu
Oui,
soit quand même
mais
assez...
ça s'est fait exprès. Et encore
Ok.
une fois, il n'y a pas de risque. Il y a pu y avoir des accidents dans le passé, ça peut arriver, mais souvent c'était parce qu'il y avait eu des imprudences, des gens qui avaient couché dehors. Et là, malheureusement, ils ont pu faire une mauvaise rencontre. C'est très, très, très rare.
Et aussi, du coup, mais il faut quand même avoir la voiture à côté de la tente pour pas faire
Oui,
trop de
mais
usage,
la voie,
quoi.
c'est bien prévu. Généralement, les voitures sont à côté.
Ok, et du coup j'avais ma deuxième question. Ben, c'est pas trop une question, mais il me semble que dans les... Quand on dort dans un bungalow, il y a un espèce d'accueil et on peut voir aussi quels animaux ont été aperçus récemment.
Oui,
Donc
alors
ça peut aider peut-être
ça
si on
dépend des
cherche
camps,
des
mais
animaux.
ça fait partie effectivement des aides un petit peu pour voir des animaux. C'est que souvent, dans les guides des visiteurs, les visiteurs disent qu'ils ont vu dans la journée, voire un jour avant. Donc, ça permet aussi, on a des cartes, on connaît le plan
Ouais.
de la réserve. Donc, ça permet aussi de voir si dans tel ou tel endroit, il y a des animaux qui sont vus. Puis, il faut se renseigner. Et par exemple, en saison sèche, il vaut mieux essayer de viser des points où il y a des points d'eau parce que les animaux vont venir boire. Quand on est en saison humide où il y a de l'eau partout, c'est moins important.
Ok. Et quels sont les risques et du coup comment se protéger? Enfin, tu t'avais dit pas sortir bien sûr de la voiture, mais est-ce qu'il y a aussi des risques des fois que l'éléphant ou un rhinocéros charge?
Oui, alors je l'ai dit, dans les logements, il n'y a pas de risque, évidemment, ou il y a très très peu de risques. Après, il y a quelque chose, moi j'ai une anecdote, c'est quand on fait des safaris en voiture, moi j'ai été plusieurs fois chargé par des éléphants. Donc alors, évidemment, c'est plus, comment dirais-je, c'est un peu plus impressionnant d'être chargé par un éléphant, parce que l'éléphant c'est gros, que
Ouais.
d'être chargé, on va pas être chargé par un gnou ou par...
Ouais.
par une antilope quelconque, c'est rare. Donc voilà, donc il y a peu de risques d'une façon générale. Il faut respecter les animaux, il faut aussi respecter une certaine distance par rapport aux animaux. Si vous approchez trop près d'éléphants, et
Et
notamment
surtout s'ils sont petits, ouais, s'il y a
s'ils
des
sont petits,
petits.
si notamment s'il y a des petits, les mères vont pouvoir vouloir les protéger. Après, on s'aperçoit aussi que souvent dans les éléphants, ils ont tous leur caractère. Il y a des adolescents. Les adolescents, ils sont un peu plus turbulents, ils essaient de se faire respecter. Et un jeune mâle, par exemple, quand il voit une voiture qui approche trop près, il risque de se diriger vers elle. Alors un conseil, c'est de pas s'approcher trop trop près. Et puis c'est toujours de se mettre dans une position où, si jamais tu dois t'en aller avec la voiture, ben que tu sois, par exemple, plutôt en marche avant qu'en marche arrière.
Ouais.
Parce que si l'éléphant, là, un éléphant, ça peut courir jusqu'à 40 km/h.
Ouais.
Donc si l'éléphant commençait même, ce sont souvent des charges d'intimidation, hein, mais si l'éléphant commence à faire une petite charge, si tu dois bouger, c'est plus facile de partir avec la voiture en marche avant que d'être obligé de reculer. Voilà. Donc généralement, il n'y a pas de risque. Il y a quelques règles élémentaires à bien, mais de bon sens, je dirais, sur lesquelles on doit être vigilant, c'est tout. Okay. Surtout vis-à-vis des très gros animaux.
Et du coup, bah, tu disais qu'il faut mieux être en marche avant, mais est-ce que si jamais il y a un gros troupe d'éléphants et que là, dans ce cas, on ne peut pas bouger, est-ce qu'il vaut mieux vraiment éteindre la voiture pour ne pas faire de bruit et vraiment que...
Oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où en fait, on voit un éléphant, deux éléphants, on les photographie, puis tout d'un coup, on s'aperçoit que derrière vous, il y a trois éléphants, puis à gauche, il y en a deux, puis en fait, on est entouré par des éléphants. Bon, bah là, c'est pas la peine d'essayer de passer. Là, on coupe le moteur, on attend. Vous pouvez prendre quelques photos, vous faites pas trop de bruit, vous criez pas. Oui. Et puis, on attend. Et les éléphants, ça se passe souvent très très bien. Je veux dire, ils sont pas agressifs, ils continuent. Et voilà. Donc il y a aucun souci là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas. Et souvent, en plus, ces animaux-là. Quand tu es dans une voiture, on parlait de la différence avec un safari à pied.
Oui.
Quand on est dans une voiture, en fait, on dit toujours que les animaux nous perçoivent un peu comme un animal. Ils perçoivent la voiture comme un autre animal. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier.
Ok. Est-ce que du coup, tu peux un peu parler des safaris à pied, peut-être? Ou est-ce que tu veux revenir du coup sur les anecdotes un peu qui te sont arrivées?
Ouais, alors on peut parler des deux en même temps. Safari à pied, donc oui, effectivement, il m'est arrivé au Natal, notamment à Chichlum Folosi, de faire des safaris à pied. Alors, quand on fait des safaris à pied, on est toujours encadré. J'en ai fait au Botswana et dans le Natal. Alors, une anecdote. Dans le Natal, donc chez Chichlum Folosi, en Afrique, c'est en Afrique du Sud, hein, pardon. Il y a beaucoup de rhinocéros dans ces réserves. Donc, notamment, les gardes nous mettent toujours en. Alors, ce sont des gens qui sont armés, hein, parce que normalement, ils se servent jamais de leur arme, mais on ne sait jamais. Et ils nous disent toujours, faites attention. Si jamais, par exemple, on est chargé par un rhinocéros, c'est souvent les rhinocéros noirs. Il y a très très peu, c'est une espèce, ce qui devient très rare maintenant. Mais le rhinocéros noir est un peu plus turbulent.
Mais il me semble qu'il y en a. Enfin, il y en a plus du tout. Enfin, il y en a peut-être
deux. Deux ou trois, c'est une dizaine, dans les réserves de Tanzanie ou quelque part au Kenya. En Afrique du Sud, on en trouve davantage. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils nous disaient toujours, voilà, vous trouvez un arbre et vous vous planquez derrière l'arbre et vous bougez plus.
Parce que ça voit très mal.
Pourquoi? Exactement. Okay. Parce que le rhinocéros, d'une façon générale, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, il voit très mal. Donc en fait, si jamais vous courez là, il continue à avoir quelqu'un qui court. Mais si jamais vous êtes planqué derrière un arbre, bon, bah là, il vous voit plus. Alors, quand vous êtes en train de marcher et que tout d'un coup, les gardes vous crient, attention, on est chargé, et que là, vous voyez un rhinocéros qui vient vers vous en courant, il faut trouver un arbre. Et c'est pas évident. Souvent, on voit des arbustes qui font 10 cm de diamètre, mais ça fait rien. C'est pas grave. On s'agenouille derrière le petit arbuste et on bouge plus. Et là, souvent, le rhinocéros, il est un peu confus parce qu'il voit plus de personnes qui bougent. Donc, ce sont souvent des charges d'intimidation. Hein, donc, le rhinocéros s'en va. Donc, ça nous est arrivé, mais c'est quand même très impressionnant. Ce qui nous est arrivé aussi au Botswana, c'est marcher dans... Alors, le Botswana, c'est l'Okavango, marcher dans la réserve de Moremi. Et en fait, on avait des guides. Et à un moment, on avait trois guides avec nous, mais personne n'était armé. Et à un moment, il y a un éléphant qui est arrivé. Alors au départ, il y avait trois éléphants qui étaient à peu près à 80 mètres. Puis il y a un éléphant qui est arrivé à 60, 50 mètres. Il a commencé à nous charger, encore une fois, en écartant les oreilles.
Et on était à pied. Et ça voit bien ou pas un éléphant ?
Oui. Donc là, il faut imaginer la situation. On était un petit groupe. Hein. Il y avait 5 personnes plus 3 guides. Et puis donc on voit 3-4 éléphants, des mâles, des jeunes mâles, à peu près 80 mètres. Tout d'un coup, il y a un de ces éléphants, un seul, qui arrive en marchant vers nous. Et donc il se rapproche 60-50 mètres et on voit qu'il commence à charger. Alors, encore une fois, ce sont des charges d'intimidation, mais il écarte les oreilles, il fait du bruit. Et là, à ce moment précis, il y a deux des trois guides qui partent en courant, qui s'enfuient. Donc on se regarde les uns les autres et on ne sait plus trop quoi faire finalement. Et heureusement, il y a le troisième guide qui lui fait quelque chose de totalement différent. Il commence à crier et court vers l'éléphant en criant pour attirer son attention. Et l'éléphant, en fait, ben voilà, celle-là stoppé et puis c'est en allé. Et en fait, il nous a dit après coup que, heureusement, on était sur un éléphant qui était relativement jeune, 15-20 ans. Hein. Il y a un éléphant, ça vieillit beaucoup plus vieux, ça vieillit jusqu'à 60 ans. Et un jeune mâle. Et donc, ça se serait passé totalement différemment si ça avait été un vieux mâle. Alors, dans les anecdotes, toujours avec les éléphants, ben souvent on a des anecdotes plutôt avec les gros animaux. Voilà, moi j'ai eu l'occasion, encore une fois, dans la réserve de Moremi. Alors, c'était un peu particulier, mais... en gros, on était deux et puis on avait dû passer une nuit à la Belle Étoile, mais sans tente, sans rien du tout, par rapport à ta question tout à l'heure, dans un sac de couchage. Et puis il y avait un beau clair de lune, il y avait un éléphant qui avait secoué un arbre pour ramasser les fruits. Et puis c'était dans un camping public, donc il y avait d'autres touristes.
Donc pas de tente. Vous étiez
Nous c'était pas normal. On était parce qu'il y avait un petit problème. On n'avait pas de tente avec nous. Normalement, on aurait dû avoir une tente, mais bon, malheureusement, on n'avait pas de tente. Et donc voilà, moi j'étais dans un sac de couchage. Peut-être 11h du soir. Et puis il y avait cet éléphant qui était à une trentaine de mètres. Et puis il y a d'autres touristes qui ont vu cet éléphant qui était en train de secouer l'arbre, un superbe mâle. Et qui sont venus un peu le regarder avec des torches. Et en fait, l'éléphant, ça l'a agacé. Et l'éléphant a commencé à charger. Le seul problème, c'est que nous, on était situés entre les touristes et l'éléphant. Donc en fait, l'éléphant, il s'est arrêté. Moi, je suis resté dans mon sac de couchage. Et il s'est arrêté à 15 mètres de nous. En pleine nuit. Voilà. Donc voilà, ça, c'est le type d'anecdote qui font de jolis souvenirs.
Mais pas sur le moment.
Voilà. Et puis après, il y a des attitudes. On te dit que si tu es à pied, normalement, ça doit jamais t'arriver, mais si tu es à pied, que tu es chargé par un lion, on te dit, par exemple, que tu dois jamais fuir parce qu'en fait, tout d'un coup, tu ressembles à une proie qui fuit devant un lion.
Mais pour le coup, en revanche, pour les éléphants, c'est un peu différent.
Enfin, oui. Alors, ça dépend. Mais en fait, il faut adapter. Le meilleur chose, c'est jamais de se mettre dans ces conditions-là. C'est très, entre guillemets, c'est très accidentel. Dans la 95% des cas, il se passe rien du tout. On photographie les animaux et tout va très très bien. Tout va très très bien. Mais c'est des choses qui peuvent arriver quand on parle d'anecdotes.
Ok. Et pour finir cet épisode, pourquoi est-ce que tu aimes autant ça? Enfin, les safaris, donc observer les animaux, mais surtout aussi la photo. Pourquoi?
Alors moi je vous le conseille vraiment si vous avez l'occasion de le faire, parce que déjà pour nous qui vivons en France, voir des animaux, par exemple là je vous ai parlé beaucoup d'Afrique, mais voir des animaux dans leur environnement naturel en Afrique, bon, c'est quelque chose qui est évidemment totalement différent, ça n'a rien à voir par rapport évidemment à des parcs zoologiques. Ça c'est le premier point. Je trouve que on oublie tout. Quand on est là-bas, je trouve que on oublie tout. Il y a pas de téléphone, il y a peu de téléphone généralement. On vit au rythme un peu des animaux. On les voit vraiment évoluer dans des conditions comme ils ont toujours vécu finalement. Et ce qui est incroyable, c'est que rien n'est jamais pareil. C'est-à-dire que tu peux rester 5 nuits, 5 journées dans une réserve. Tu verras jamais la même chose, ou même si tu vois les mêmes animaux, bien évidemment, ils seront toujours dans des situations totalement différentes. Je vous le conseille si vous avez l'occasion, je vous le conseille vraiment à tous. C'est quelque chose qu'il faut avoir vu, si c'est possible, dans sa vie, je trouve.
Ok. Bah, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. C'était hyper intéressant et j'espère que si les personnes ont l'occasion, ça les encouragera à vivre cette expérience. Encore merci.
Et puis lisez beaucoup de choses sur les guides. Vous avez plein de choses sur Internet, sur les guides et tout ça. Ça peut vous donner beaucoup de conseils sur la façon dont vous pouvez faire votre safari idéal, entre guillemets.
Ok, parfait. Merci encore.
Merci.